Bonjour messieurs, bonjour madame et bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Les titres: baisse du niveau des mobilisations des recettes publiques, dépassement budgétaire excessif par certaines institutions de la République et faible affectation budgétaire au secteur de la santé et de l'enseignement. Ceci ressort d'une étude publiée mercredi à Kinshasa par l'Observatoire des dépenses publiques. Cette étude a porté essentiellement sur l'exécution des budgets du pouvoir central entre 2012 et 2014. Le trafic ferroviaire a repris en début du week-end dernier entre Kinshasa et Matadi. C'est une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques et les populations le long des chemins de fer. Ils pensent que l'évacuation des produits des champs et des marchandises au port de Matadi se feront plus aisément. Et dans cette émission rétrospective, nous serons en ligne avec Philippe Walesa depuis Montréal au Canada. Il est le président du Fonds d'investissement des Congolais expatriés. Ce fonds a l'ambition de venir également financer les petites et moyennes industries congolaises. Et c'est avec lui que nous allons commenter l'actualité économique de la semaine. Philippe, vous êtes avec nous. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous répondez à partir de Montréal.
Merci beaucoup. Ici, on est le matin. On a un décalage de 5 heures avec Kinshasa, mais ça va très bien. Merci beaucoup.
Panorama économique, le dossier.
Ouvrons panorama économique par Kinshasa. L'Observatoire des dépenses publiques, ODEP en abrégé, a publié mercredi les résultats d'une étude menée du 24 juin au 24 juillet 2015, une étude sur la synthèse du rapport d'analyse de l'exécution du budget du pouvoir central pour les exercices 2012, 2013 et 2014. Selon cette plateforme, la tendance est à la baisse dans les réalisations des recettes du budget de l'État depuis 2012 jusqu'à 2014. Certaines institutions de la République, note la plateforme, consomment à elles seules plus de la moitié du budget national. Nadine Folasimba nous en dit plus.
Cette analyse part du constat que les intérêts de la population congolaise sont sous-représentés dans le processus budgétaire. Tenez, en 2012, selon cette étude, les réalisations budgétaires étaient à 65,4%, 63,9% en 2013 et 49,5% en 2014. Toujours selon cette étude, les recettes mobilisées par le gouvernement congolais entre 2012 et 2013 renseignent que les recettes internes sont étaient à 78,8% et les recettes externes à 30,8%. L'exécution du budget du pouvoir central de la RDC repose plus sur les ressources internes. La part des recettes internes dans les financements des budgets baisse chaque année. Elle passe de 85,1% en 2012 contre 76,6% en 2013. Le gouvernement rencontre des sérieux problèmes à mobiliser les recettes extérieures. Les tableaux des recettes du budget renseignent aussi qu'entre les deux exercices, la tendance est à une baisse des réalisations. Seuls la DGDA et les recettes des pétroliers producteurs connaissent tout de même une évolution positive. Floribert Mouteba, DG de l'ODEP, dresse ici ses tableaux sombres.
Même quand vous faites l'analyse des dépenses au niveau de dépenses sociales, c'est là justement où vraiment les taux d'exécution est vraiment le plus bas. Santé, éducation, développement rural. Et par contre, vous voyez que les dépenses relatives aux institutions politiques sont toujours en dépassement. Et quelque part, il y a un problème de justice distributive, il y a un problème de justice sociale.
Par ailleurs, ce rapport souligne qu'en examinant les avis de la Cour de compte, cette dernière n'a pas pu faire une déclaration de conformité faute à l'amélioration de la tenue de la trésorerie au non-respect des délais prescrits dans le dépôt de la loi portant reddition des comptes. L'ODEP formule quelques recommandations au gouvernement de lutter contre le contre-performance des stratégies financières et au sujet des dépassements budgétaires, elle souhaite un renforcement de l'efficacité des administrations fiscales. Au Parlement, en sa qualité d'autorité budgétaire, l'ODEP demande une implication pour la suite à donner au rapport de la Cour de compte, afin que pour chaque exercice, le budget du pouvoir central, son exécution et règlement définitif soient conformes à ces textes.
Une autre actualité qui a marqué cette semaine, c'est la reprise du trafic au train express Kinshasa-Matadi-Kinshasa. Le premier convoi a été organisé le samedi dernier, une reprise qui réjouit les populations vivant aux abords de la voie ferrée Kinshasa-Matadi. Ces derniers voient dans cette reprise un désenclavement économique de leur milieu. Il n'y a pas que les villageois qui se réjouissent de cette reprise. Les opérateurs économiques également du Congo central attendent beaucoup de cette reprise, comme nous explique ici notre correspondant à Matadi, Guirogé Nyampala.
Pour les populations riveraines du chemin de fer Kinshasa-Matadi, cette reprise va leur permettre de vendre 7 ans après leurs marchandises auprès de passagers du train et aussi acheter certains produits de première nécessité tels que le sucre, le sel, le riz et le savon, etc. D'après certains passagers interrogés, des petits marchés commencent à voir le jour au niveau de certains arrêts de ce train, notamment Kimpese, Kwilungongo, Lufutoto et Kisantu. Autre retombée attendue par rapport à cette reprise du trafic ferroviaire, c'est le désengorgement du port international de Matadi, ce qui, selon certains experts, va faciliter la rapidité en ce qui concerne la sortie de marchandises. D'autres commerçants espèrent qu'avec la reprise de train marchandises, le prix de vacuation d'un conteneur vers Kinshasa va baisser. La reprise ferroviaire va donc permettre à ce que la nationale numéro 1 respire. En ce qui concerne ce train, notez que c'est le samedi dernier que le train express est arrivé à la gare centrale de Matadi à 15h, heure locale. Il s'agissait d'un voyage de 7 heures. La classe de luxe avec 35 passagers coûte 80 600 francs congolais, soit 87 dollars américains. La première classe avec 60 places, 55 600 francs congolais, soit 60 dollars américains. Et la deuxième classe avec 108 places, 14 850 francs congolais, soit 16 dollars. Les enfants de 4 à 10 ans payent 50% du prix. Matadi, Guiroje Nyampala, Éco d'économie.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine en plus bref à présent, nous avons parlé cette semaine de l'enclavement total du territoire de Walikale au nord Kivu. Les trois axes routiers, Walikale Goma, Walikale Bukavu et Walikale Kisangani, qui relient le chef-lieu de ce territoire à d'autres contrées du nord Kivu, du sud Kivu et même de l'ex-province orientale, sont dans un état de délabrement très avancé. Les vols commerciaux ne desservent même plus et ceci constitue du coup un véritable frein pour le développement de ce territoire d'environ 25 000 km². La SONAS Lubumbashi déplore un manque à gagner de plus d'$1 million de dollars américains pour l'exercice fiscal 2014-2015. La directrice de cette agence a déclaré que la plupart des souscripteurs à l'assurance n'ont pas apuré leurs dettes. Ainsi, la SONAS se trouve dans l'obligation de les traduire en justice. Emerance Muleka, qui l'a dit, a aussi annoncé que la SONAS n'acceptera plus le paiement de l'assurance par fraction. Peut-être un début de canalisation des recettes générées par le marché frontalier de Lufu. Nous en parlions jeudi suite à cette tendance haussière des prix des biens en provenance de ce marché frontalier de Lufu après le passage du Premier ministre Matata Ponyo le week-end dernier. Certains produits ont changé de prix sur le marché de Kinshasa, raison avancée par les vendeurs. Les frais des douanes ont été revus à la hausse. Voilà pour la synthèse de l'actualité économique de la semaine. Le temps de donner la parole à notre invité, Philippe Walesa. Il est le président du Fonds d'investissement de Congolais expatriés. Il est en ligne avec nous depuis Montréal, au Canada. Philippe, vous êtes toujours là?
Oui, je suis là. J'ai toujours appelé la RDC le continent pays. Et quand je le compare, par exemple, avec le Nigeria, qui a, par exemple, pour le budget 2015, un montant de 22 billions 6 milliards. Aujourd'hui, les Nigériens disent que le développement de l'Afrique doit passer par la RDC. Et quand je vois les budgets maigres du Congo démocratique, et je peine à comprendre comment, pour la période qui a été annoncée, que le gouvernement s'affaire à ne pas au moins tenir aux premiers engagements souscrits. Ce que nous remarquons au Congo démocratique, les gens, facilement, ils sont compétents, mais ils n'ont pas une bonne moralité, ils n'ont pas une bonne honorabilité. Quand il arrive le temps de prendre, d'exécuter des engagements, ils ne le font pas. Et là, on a bien raison que l'argent aille dans les poches ou ils soient destinés à autre chose que les principales. Par exemple, au niveau du Nigeria, ils ont un principe auquel ils tiennent, c'est la transparence, la réduction des dépenses et la productivité. Et en septembre 2014, 60% du budget était réalisé et ils avaient des priorités comme dans l'agriculture, l'électricité, le transport, l'immobilier, l'assurance, l'industrie manufacturière, l'énergie pétrolière et gazière, le mine, l'industrie créative, les technologies. Mais on peut bien comprendre que pour la RDC, on parle qu'ils ont une mentalité de côté, c'est-à-dire une belle société, le financement extérieur, qu'on ne peut pas donner, puisqu'on se rend bien compte que ce qu'ils gèrent, ils les gèrent beaucoup, beaucoup plus mal. Et un secteur comme l'éducation, moi je ne comprends pas les gens qui ont peut-être étudié à Louvain-la-Neuve, à l'université de Lubumbashi ou ailleurs, et quand aujourd'hui, plusieurs années plus tard, ils voient que l'état de délabrement...
Des infrastructures universitaires, oui.
Oui, mais quand on se retrouve dans des forums internationaux, par exemple de l'éducation, vous trouvez les Rwandais, quelqu'un qui a étudié à Butare, avec quelqu'un qui a étudié à Kinshasa ou à Lubumbashi.
Oui.
Ça ne se compare pas. Parce qu'on dit déjà qu'ils sont mal formés et puis ils n'ont pas de structure. Et ça donne déjà...
Une mauvaise impression.
Je donne un petit exemple. Dernièrement, quand j'étais aux États-Unis, les Américains ont réuni les gens qui sont venus de plusieurs pays, notamment le Burkina Faso. Le président de cette congrégation-là au Burkina Faso a parlé et a passé la parole à sa femme qui était présidente des femmes. Elle a bien expliqué les choses, mais quand est venu le temps pour la partie congolaise, le président s'était bien expliqué, mais sa femme apparemment n'a pas eu une bonne expression, mais elle s'est excusée. Tout le monde qui a pris la parole après du Congo ne faisait que s'excuser parce qu'il n'a pas amené la femme, sa femme ne peut pas parler. Et vous sentez que dans tous ces forums-là, le Congo est beaucoup plus réduit et c'est pas là que les gens sont en train de rire.
C'est-à-dire si je vous comprends très bien, au lieu de dépenser l'argent public à des futilités, il serait mieux d'investir dans l'éducation, dans l'enseignement et même dans le domaine de la santé comme c'est relevé dans ce rapport. La part réservée à la santé, à l'enseignement, à l'éducation sont très minimes alors que dans d'autres institutions telles que la présidence, la primature, le parlement, en tout cas ces institutions sont budgétivores.
Oui, mais tout ce monde qui vient dans la politique là, ils pensent un jour devenir président, ministre, tout ça. Alors quand ils sont là-bas, ils ne regardent pas le bien-être de la population et leur poste. Pourtant, par exemple, au niveau des États-Unis, quand vous voyez dans leur budget, ils accordent beaucoup de priorité à la diplomatie, et à la défense militaire, et aussi à la sécurité renseignement et aux entreprises. Parce qu'ils savent très bien que quand les entreprises progressent, elles paient les impôts et puis ça soutient l'économie. Mais au Congo démocratique, l'économie, on n'en parle pas. C'est laissé pour compte. Pourtant, ça devait être l'épine dorsale de toutes les interventions. On parle des problèmes des trains, on parle de l'enclavement. L'argent qu'on pouvait avoir, on devait beaucoup aller dans les infrastructures. Je disais la dernière fois que la Chine s'était développée à travers trois axes. L'énergie, les infrastructures et la main d'œuvre. Mais si aujourd'hui nous voulons que le Congo démocratique aille beaucoup plus loin, c'est vers là qu'il faut regarder. Tout est laissé pour compte, chacun profite et oublie. Et surtout le problème des Congolais, ils ont ce qu'on appelle ici les fast-food, c'est que ils veulent préparer tout de suite, manger tout de suite.
Justement, je vous comprends bien.
Oui,
Philippe, nous n'avons pas tout le temps, mais nous avons beaucoup de sujets à développer. Justement, vous déplorez le fait là, le peu d'argent qui existe. On a parlé de l'enclavement de Walikale, par exemple. Mais vous êtes le président du fonds d'investissement de Congolais expatriés. Nous n'avons pas tout le temps, je l'ai dit. Essayez de nous en parler brièvement et en quoi la République démocratique du Congo, par exemple, peut être bénéficiaire de ce fonds d'investissement.
Oui, je suis la conférence qui va se tenir, le forum sur l'investissement sur le pays des Grands Lacs. Et là, dans cet accord-là, on cherche les investisseurs. Ce que nous voulons, c'est quoi? Vous avez peut-être vu que la GECAMINE avait été financée au tout début sur base de la culture locale. Alors, on n'a pas besoin qu'on puisse avoir l'argent de l'étranger pour lequel il faut payer beaucoup d'intérêts ou ailleurs. Nous sommes constitués, nous avons trouvé des réseaux où il y a de l'argent pour dire, ok, cet argent-là, nous allons les utiliser, soit pour transformer les petites et moyennes industries. Nous voulons créer la richesse. Nous voulons travailler avec les gouvernements dans les domaines où ils n'offrent pas l'expertise. Alors, nous voulons améliorer les services de proximité, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau des affaires, tous les services qu'on peut rendre à la population. Et on a bien compris que partout, c'est l'initiative privée qui donne de bons résultats. Et nous, on s'est dit, au lieu que les gens puissent utiliser là pour critiquer le gouvernement, nous voulons qu'on soit considéré comme un outil d'amélioration des conditions de la République démocratique du Congo, que ce soit pour les personnes physiques ou morales. Alors, les fonds existent. Et pour le moment, nous avons déjà certains projets qui sont en train d'être réalisés. Et nous trouvons beaucoup d'engouement, au moins pour une part, tous les Congolais, où est-ce qu'ils peuvent être, ils sont d'accord, pour, à travers ces fonds-là, ou qu'ils ne montrent pas la couleur, ou que les faits d'intérêt qui sont, pour non seulement aider le gouvernement, mais beaucoup, souvent, c'est pour créer la richesse, et puis aussi, comme actionnaire, avoir de l'argent comme ça, il y aura moins de problèmes pour eux, il y aura moins de problèmes pour la population, il y aura moins de problèmes pour les gouvernements. C'est que c'est tout le monde qui gagne. Et nous sommes beaucoup plus conscients de ce qui est en train de se passer au niveau de la conférence qui va avoir lieu à Kinshasa.
Oui.
Et on s'est dit
la conférence des Nations Unies, les Nations Unies entrevoient.
Ce qu'on parle est que non, les étrangers, mais ce langage-là ne passe pas au niveau international. Il faut un autre langage. Mais ce langage-là, c'est en essayant de collaborer avec tous les pays-là, à travers des activités économiques, et à ce moment-là, on va avoir la paix. Et alors, nous, on veut utiliser le temps pour aider la RDC, comme tous les autres pays de l'Afrique australe ou encore du Grand Lac, pour réaliser certains projets qui vont porter des fruits et sur lesquels chacun va se concentrer.
Monsieur Philippe, oui, Philippe, vous avez parlé de quelques projets qui sont déjà en exécution. On peut en savoir c'est combien en termes de chiffres, il y a déjà combien de projets et dans quel secteur justement vous avez déjà financé à travers le fonds de financement? Le fonds d'investissement.
Oui, c'est la briqueterie. On sait qu'on veut le faire d'abord dans l'immobilier. On s'est dit que les Congolais sont mal logés et on a trouvé ici qu'il y a des centres de briqueterie qui fabriquent des briques à partir desquelles on construit des maisons. Alors, notre grande partie de l'argent, on a mis dans la briqueterie, c'est qu'on va construire des maisons. Et la deuxième chose, c'est acheter des équipements de transformation, que ce soit par exemple le maïs, que ce soit par exemple tous les fruits. Et aussi, là, on est en train de voir la possibilité de prendre tous les produits agricoles du Congo et venir les exporter ici, les vendre où il y a un grand marché.
Vous parlez en termes de projections. Ben, si ce sont des projections, c'est à court terme, à moyen ou à long terme, ou c'est des choses, c'est des promesses, ou en tout cas, vous êtes déjà effectif sur le terrain. Et si vous êtes déjà présent en RDC, c'est dans quelle partie de la RDC, dans quelle province, par exemple?
On est présent à Tchikapar. Là, nous avons apporté des couverts industrielles pour produire chaque 3 semaines à peu près 22 000 poussins, puisqu'on s'est dit que la population doit quand même manger. Et nous avons aussi trouvé des étendues pour extraire de l'argile et fabriquer des briques. Et là, c'est ce que c'était déjà à Tchikapar. Nous avons déjà beaucoup d'équipements de boulangerie. Et également, ça c'est déjà à Kinshasa. Et maintenant, nous sommes en train de voir les transports fluviales. L'autre secteur qui est beaucoup plus important, c'est le secteur des études et aussi des assurances. On s'est bien compris, j'attendais la madame qui disait que à Lubumbashi, qu'il faut traduire les gens justice. Mais le problème avec l'assurance, quand il y a maintenant des sinistres qui se produisent, est-ce qu'ils payent? C'est que les gens n'ont plus confiance, mais à travers le fonds, nous voulons restaurer cette confiance-là avec la base. Nous voulons amener des manières qui sont différentes et qui font que, avec la transparence, les gens se retrouvent. Et une fois que les gens ont la confiance, une fois que les gens croient dans ce qu'on fait, à ce moment-là, on va moins recourir au gouvernement et les gens vont se prendre vraiment en charge. Le problème est que jusqu'alors, les gens pensent que tout doit être fait par le gouvernement. Non, le gouvernement n'est pas en mesure de tout faire. Et il doit vraiment comprendre qu'il doit céder quand même sa part de marché.
La dynamique privée, oui, justement.
Le premier, et qui peut lui rapporter.
Vous nous avez également écrit, Philippe, et c'est par là que nous allons terminer. Vous avez suivi l'interview que nous avons diffusée le 10 août, interview que nous avait accordé le ministre des Hydrocarbures, où il parlait de ces secteurs en République démocratique du Congo, et vous avez estimé qu'il y avait beaucoup à dire et à faire dans ces secteurs.
Oui, le ministre parlait d'un fonds que le gouvernement va mettre en place pour des générations. moi, je déplore une chose. Souvent, ceux qui sont au pouvoir à Kinshasa ou ailleurs, quand ils viennent à l'étranger ici, ils s'inspirent de concepts qu'on parle comme l'émergence. Ils trouvent tous les concepts possibles et puis ils essaient un peu de ramener ça pour le faire entendre au moins aux oreilles de la population. Mais en réalité, les choses ne sont pas de la même. Je donne l'exemple de la Norvège, qui a 5 millions d'habitants et qui a un budget pour en 2013 de 188 milliards de dollars. Et qu'est-ce que la Norvège a fait? La Norvège, depuis 40 ans, elle exploite le pétrole et elle a déjà mis à côté un fonds global de valeur de 750 milliards. Et avec sa propre compagnie qu'on appelle Statoil. Alors, tout ça, c'est pour éviter... Pourquoi on a mis cet argent à côté? C'est pour la génération future, mais surtout, c'est pour éviter ce qu'on a parlé de la maladie hollandaise qui affecte les pays riches en pétrole, en gaz, et puis qui veulent laisser les autres secteurs pour populariser seulement les secteurs pétroliers. Alors, on a trouvé qu'il faut... diversifier les secteurs d'investissement et ça c'était beaucoup plus important. Et toujours en Norvège, il y a les îles qu'on appelle le Fotten, c'est une région qui est riche en pétrole, en passant, mais qui ça unique depuis l'Islande. Et on trouve dans ça que c'est à côté de gisements de pétrole. Mais tous les gouvernements qui sont succédés ont donné des moratoires pour dire non, non. On ne peut pas exploiter le pétrole dans cet endroit-là puisqu'il y a des poissons. La vérité, c'est quoi? L'exploitation du pétrole donne des maladies cancérogènes. Quand on parle de fonds, des générations, comme le ministre le disait, il y a le Tchad qui a déjà ces fonds-là, avec des projets de l'éolique Gouba-Kribi. Et ça a été fait sous l'impulsion de la société civile et aussi de la Banque mondiale. Le gouvernement a finalement pris des mesures sans précédent dans cette région-là destinée pour qu'une partie de l'argent puisse constituer une épargne pour les générations futures. Alors, quand le ministre vient nous dire ça, il copie ça quelque part et il veut nous faire croire que c'est une innovation. Ça, ce n'est pas vraiment une innovation.
Mais ouais, il est aussi mieux. Oui? Il est aussi, ouais, je disais, il est aussi mieux de prendre les bonnes choses qui se passent chez les voisins et appliquer chez soi.
Non, mais le problème, c'est quoi? C'est la théorie. Mais nous, les gens aiment la fatigue. Les gens sont fatigués toujours des promesses. Les gens veulent la pratique. Mais ils trouvent, ils disent, ok, ça c'est le fonds de l'innovation. Mais comment ce fonds-là va être géré? Quand déjà on trouve que dans ce qu'ils font avec les budgets, il y a les dépassements. Et dans quel domaine il y a des dépassements? C'est pas le domaine social. C'est le domaine qui est les leurs. Et là, ça ne peut pas beaucoup aller. Mais ce que je voulais dire, et qui me semble beaucoup plus important, parmi les entreprises qui exploitent le pétrole, il y a par exemple Shell. Je vous dis, par exemple, pour les trois prochaines années, Shell, le budget, a alloué un budget de 15 millions pour dépenser. Pourquoi? Il veut diversifier des choses. Mais quand vous voyez le budget du Nigeria, c'est 22 billions. Shell, chaque année, va prendre 15, réduire ses dépenses de 5 millions. C'est que le budget de Shell comme pétrolier, c'est deux ou trois fois d'un pays comme le Nigeria. 1000 fois, 500 fois comme pour les Congo démocratiques. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ces gens-là vont venir, on va leur donner, ils vont gagner l'appel d'offres. Et ils vont venir pour extraire. Mais ils sont en mesure de rendre le gouvernement instable. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le ministre de l'économie qui voulait un peu régulariser dans le domaine des tickets d'avion. Vous avez vu comment ils se sont tiraillés avec les gens de CIA ou les autres. Mais ça prend un gouvernement qui est assez fort ou qui est beaucoup plus exigeant. Mais quand Shell va venir, il va s'imposer. Quand Shell va s'imposer, tout l'argent, les revenus que Shell va faire, ça doit aller comme des profits pour les actionnaires. Mais sur place, nous ne vont rien gagner.
Et vous proposez quoi? Vous proposez concrètement quoi alors?
En principe, il faut voir la possibilité que les Congolais eux-mêmes regardent ce qu'ils peuvent faire. Nous, aujourd'hui, on a envie de mobiliser les fonds. Mm-hmm. Et nous voulons qu'on s'asseye avec le gouvernement pour dire, voilà, des domaines secteurs, des grands secteurs là, il faut que les Congolais eux-mêmes s'en approprient. Et à ce moment-là, et ils gagnent, quand il y a des profits, la population gagne et l'économie gagne. Alors, au lieu que le gouvernement puisse toujours regarder à l'extérieur, il faut que les choses changent.
Et mais c'est parce que justement, ces Congolais, ils n'ont pas assez d'argent, et comme on a besoin d'argent, on doit aller les chercher là où il y en a.
Non, c'est pas vrai. Il y a de l'argent. L'argent, d'abord, c'est la confiance. C'est pourquoi moi, je repose au gouvernement de ne pas tenir ses engagements. Et le fait de ne pas tenir ses engagements crée une crise, un climat de méfiance entre la population et le gouvernement. Je vous dis, je répète, ici, en Occident, on a eu le temps de se promener. Il n'y a pas d'argent. L'argent, c'est dans la confiance. Aujourd'hui, si le gouvernement faisait, par exemple, l'appel des fonds à l'épargne. Comme on m'a donné l'exemple, il y a une banque ouest-africaine qui est venue s'installer au Congo et elle a fait l'appel de fonds. En moins de temps, cette banque-là avait réuni le montant qu'il fallait pour que la banque fonctionne. En fait, les Congolais ne manquent pas de l'argent.
C'est pour dire que
le gouvernement doit beaucoup travailler. Le gouvernement doit assurer la population avec des mesures exemplaires. Mm-hmm. Et vous verrez que les choses vont changer. L'argent se trouve au Congo. Il y en a beaucoup au Congo.
Monsieur Philippe, c'est pour dire que vous aussi, Congolais expatriés, vous avez beaucoup d'argent avec vous. Vous attendez seulement que les conditions de confiance soient créées pour que vous ameniez l'argent et l'investir au pays, c'est ça?
Non, c'est pas ça. Je vais dire une chose qui peut-être choquer les autres. Le système économique mondial tel qu'il a été fait n'a pas été fait pour l'intérêt des pays d'Afrique. Pourquoi? Puisque eux, dans leur mentalité, ils savent que c'est là où il y a les risques là, c'est là où il y a beaucoup d'argent. Et ils investissent là où il y a des risques parce qu'ils savent qu'ils en tirent beaucoup profit. Et puis, ils essaient un peu d'entretenir ce climat d'instabilité là pour faire peur. Parce que l'argent, par exemple, vous prenez votre argent, vous mettez à la banque, vous mettez 1000 dollars. À chaque mois, on va vous donner 12 dollars d'intérêt. Mais quand vous prenez des choses de 1000 dollars, vous amenez au Congo, ou vous allez à Bougoma, à Bukavu, n'importe où, vous investissez cet argent-là. On a compris. Le problème, on a eu un enseignement classique qui fait penser aux gens que pour réussir, il faut passer à l'école. Ceux qui ont l'argent aujourd'hui, il y a au moins 1% de la population qui est en train de s'assujettir. 99%. Mm-hmm. Ils ont l'argent, ils savent comment ils ont trouvé l'argent. Mm-hmm. Et nous nous sommes inspirés de ça et c'est pourquoi dit, ça va changer. Là où on dit qu'il y a la guerre, on dit au Congo il y a la guerre, mais pourquoi les étrangers ne quittent pas? Ils sont toujours là. L'année passée, ils ont investi plus de 55 milliards. Ils sont là. Nous, on a compris, sans dire, c'est le Congo, c'est notre pays. Autant qu'on aille perdre de l'argent là-bas, mais du moins qu'on aurait essayé. Alors les choses vont changer. Et maintenant, pour que ça marche, il faut quand même que le gouvernement nous donne certains avantages, notamment nous laisser amener nos matériels, faire disparaître un peu les tracasseries. Il y en a au moins, on me disait dernièrement qu'il y a au moins 67 taxes à payer quand il faut importer. Alors, il faut que le gouvernement comprenne, nous facilite la tâche. Nous, on ne lui demande pas l'argent. Nous facilite que nos matériels arrivent, qu'on les installe, qu'on crée l'emploi et à ce moment-là, tout le monde va trouver des fonds. Mais si on est affiché, ça ne peut pas le faire. Nous, on n'a pas peur de l'instabilité, on a peur des tracasseries du gouvernement et de ses services. Alors il faut que le gouvernement parvienne à arranger ça. Nous, on va venir, on a compris que nous devons être là. Et si on ne le fait pas, l'étranger ne va pas le faire à notre place. C'est notre pays, nous avons ce destin-là. Alors vous verrez, cette année ou les années qui vont venir, les choses vont changer. On va être sur terrain, même s'il y a des coups de canon, mais nous serons là, parce que ceux qui sont là-bas, nous n'ont jamais quitté. Et ce qui nous fait mal, c'est qu'on a compris que les Libanais aujourd'hui, ils ont construit le Liban.
Oui.
C'est la diaspora libanaise.
Oui, pourquoi justement.
On ne peut pas le faire?
Vous aussi, vous Congolais de la diaspora,
alors,
vous aussi. Oui. On va terminer par là, monsieur Philippe, le temps fait défaut. Nous avons compris que les Libanais de la diaspora ont construit le Liban. Vous aussi, Congolais de la diaspora, vous êtes déterminés à construire votre Congo, mais que l'État crée les conditions, supprime certaines taxes pour que vous ameniez le matériel et l'argent que vous avez là-bas pour construire le Congo. En tout cas, merci beaucoup, Philippe Walesa. Vous êtes congolais, vous habitez à Montréal au Canada. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir dans cette émission Panorama économique qui se termine. L'émission, je vous convie de la retrouver toute la semaine sur www.radiookapi.net. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.